France Culture.
Information présentée ce midi avec Julie Pacaud. Bonjour Julie.
Bonjour Caroline, bonjour à tous. Au moins 12 morts et 29 blessés lors d'une attaque en Australie sur la célèbre Bondi Beach à Sydney où étaient rassemblées des centaines de personnes pour célébrer la fête juive de Hanouka. Au moins 2 tireurs ont ouvert le feu sur la foule. Nous irons à Budapest où le Premier ministre hongrois Viktor Orban est de plus en plus critiqué, accusé d'inaction après de multiples révélations de maltraitance dans l'aide sociale à l'enfance. Un an après le passage du cyclone Chido, la reconstruction de Mayotte n'avance que trop lentement, déplorent les Maorés. Alors quels sont les blocages financiers, institutionnels et politiques? On en parle avec notre invité Dominique Tessier, architecte et directeur du Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement de Mayotte. La plus célèbre plage d'Australie, théâtre d'une fusillade aujourd'hui. La plage de Bondi à Sydney, où se tenait un festival à l'occasion de la fête juive de Hanouka, a été pris pour cible par des tireurs, faisant au moins 12 morts et une trentaine de blessés. 2 suspects ont été arrêtés. L'un des assaillants aurait été tué. La police parle d'un acte terroriste visant la communauté juive. Bonjour Grégory Place.
Bonjour, bonjour à tous.
Vous êtes en direct de Sydney pour France Culture. Alors des centaines de personnes étaient rassemblées sur cette plage lorsque plusieurs hommes ont ouvert le feu.
Oui absolument, 2 hommes entièrement vêtus noirs qui en fin d'après-midi, après une journée où il a fait extrêmement beau, hein, c'est l'été ici, il a fait 35 degrés, la plage de Bondi elle peut accueillir jusqu'à 40 000 personnes. Et effectivement, pendant près d'une dizaine de minutes, ils ont tiré plus d'une cinquantaine de coups de feu. On dénombre au moins 12 victimes. Et comme vous l'avez indiqué, il semblerait que l'un des assaillants ait été abattu par la police, tandis que l'autre a été arrêté et placé en garde à vue. Comme vous l'avez indiqué également, aujourd'hui, c'est le premier jour de Hanouka. Et à cette occasion, à Sydney, tous les ans, il y a bien des centaines de personnes issues de la communauté juive qui se rassemblent sur cette plage pour entamer le début des célébrations. Et c'est visiblement eux qui étaient visés, l'un des témoins qui était sur place a indiqué d'ailleurs que ces 2 hommes ont commencé à tirer sans faire aucune distinction, autant sur des personnes âgées que sur des enfants. Et c'est donc évidemment un drame terrible. Le Premier ministre a exprimé immédiatement ses plus profondes condoléances pour les proches des victimes. Il a aussi adressé ses félicitations aux forces de l'ordre. Et on a vu également des images qui réchauffent le cœur, puisque un homme, un simple civil, est parvenu à désarmer l'un des 2 assaillants. Il l'a plaqué au sol, il lui a arraché son fusil de chasse. Et puis il l'a mis en joue pour vraiment le neutraliser. C'est quelques minutes plus tard que la police est intervenue pour mettre fin à ce drame terrible. On a appris également il y a quelques minutes qu'un engin explosif aurait été retrouvé sur site. Donc une attaque d'une très grande ampleur. D'ailleurs, une attaque aussi meurtrière en Australie, c'était pas arrivé depuis plus de 30 ans.
Merci beaucoup Grégory Pless en direct de Sydney pour France Culture. Et le président israélien Isaac Herzog condamne une attaque cruelle contre des juifs quand en France, le président du Conseil représentatif des institutions juives de France, Yonatan Arfi, fait part de son sentiment d'horreur face à cette attaque lâche et meurtrière du terrorisme antisémite. Une fois de plus, écrit-il. Hier, 2 personnes ont été tuées par des tirs sur le campus de l'Université Brown aux États-Unis. 9 autres ont été blessés, tous des étudiants. L'auteur de ces coups de feu n'a pas été encore appréhendé. 400 membres des forces de l'ordre sont mobilisés. Un nouveau projet d'attentat sur un marché de Noël déjoué en Allemagne. 5 hommes ont été arrêtés hier par les autorités, soupçonnés d'avoir préparé un attentat islamiste à la voiture Bélier sur un marché de Noël de Bavière. Un an après le choc suscité par l'attentat meurtrier au marché de Magdebourg qui avait fait 6 morts et 300 blessés. Les 5 suspects ont été présentés à un juge et placés en détention. 50 000 personnes rassemblées à Budapest hier pour appeler à la démission de Viktor Orban, le Premier ministre hongrois, après de nouvelles révélations de maltraitance dans l'aide sociale à l'enfance. Le leader d'extrême droite est accusé d'inaction. Les précisions de notre correspondante à Budapest, Florence Labruyère.
C'est une marée humaine qui a défilé à Budapest pour protester contre les violences subies par les enfants. Cette semaine, l'opposition a publié une vidéo de surveillance dans un centre de rééducation pour mineurs. On y voit le directeur tabasser un adolescent sans raison. Dans un autre film, un jeune homme raconte avoir été abusé sexuellement lorsqu'il avait 14 ans. Jigmond, 18 ans, a fait 3 heures de train pour venir manifester.
Ces vidéos m'ont donné la chair de poule. J'en avais les larmes aux yeux. C'est intolérable, ça ne peut plus continuer comme ça.
Ces mineurs sont en rééducation parce qu'ils ont commis des crimes, a affirmé Viktor Orban, pour étouffer le scandale. Mais son opposant, Peter Madiar, l'organisateur de la manifestation, cite un rapport accablant, remis au gouvernement il y a 4 ans. Dans tout le pays, 20% des enfants sous tutelle de l'État ont subi des violences.
Un enfant d'un an et demi a été battu et attaché à un radiateur dans un foyer d'accueil. Quel crime a-t-il commis, monsieur le Premier ministre ?
Ce gouvernement corrompu n'a rien fait pour protéger les enfants, s'indignait Eva, une Budapestoise à la retraite. Elle votera pour Peter Madiar en avril prochain.
En cette fin d'année, l'ONU fait le bilan de ses finances et les caisses sont presque vides. Le budget du Haut Commissariat aux droits de l'homme est un des plus touchés. Il fonctionne en mode survie, alerte son haut commissaire Volker Türk. Et ses coûts budgétaires ont des conséquences graves dans de nombreux pays. Myriam Roch-Massarin.
Avec 90 millions de dollars en moins dans le budget de cette année, 300 postes ont dû être supprimés. Au grand désespoir de Marta Hurtado Gomez, porte-parole du Haut Commissariat aux droits de l'homme.
On ne peut pas faire les travaux urgents et nécessaires et les travaux que les propres États membres nous ont dit qu'il faut qu'on fasse. Mais on n'a pas l'argent. Sans argent, on ne peut pas travailler, on ne peut pas voyager, on ne peut pas faire des enquêtes parce qu'on n'a pas des gens pour les faire.
C'est le cas, par exemple, en Colombie, pays touché par des conflits armés internes malgré la signature d'un traité de paix. Depuis son installation dans le pays il y a 30 ans, le Haut Commissariat aux droits de l'homme a dû fermer pour la première fois 3 de ses bureaux colombiens. Plus d'un tiers des postes ont également dû être supprimés.
Ça veut dire qu'on ne peut pas faire notre travail de surveillance, de protection des défenseurs des droits humains, ou écouter les victimes qui viennent nous parler, ou dénoncer des violations. Et la Colombie, c'est un pays très vaste et c'est très difficile de bouger d'un endroit à l'autre par la présence des groupes armés. Donc, la présence dans les terrains, c'est très important.
Si la Colombie se retrouve dans cette situation, c'est que les missions humanitaires dans le pays dépendent presque entièrement de l'aide américaine. Or, les États-Unis ont drastiquement réduit leur contribution au Haut Commissariat. Ils ne sont pas les seuls. La France, le Royaume-Uni ou encore la Suède ont fait de même. Volker Türk, le Haut Commissaire aux droits de l'homme, appelle donc les États à se réengager pour la protection des droits humains.
Et les précisions de Myriam Roch-Massarin pour France Culture. Les bureaux de vote viennent d'ouvrir au Chili, où les électeurs sont appelés aux urnes pour désigner leur nouveau président. Le deuxième tour voit s'affronter la candidate communiste à la tête d'une large coalition de gauche, Jeannette Jarrah, à celui de l'extrême droite, José Antonio Kast, en tête dans les sondages. Il a centré sa campagne sur la lutte contre la criminalité, promettant d'expulser les près de 340 000 migrants en situation régulière. La ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, attendue dans le sud-ouest demain pour assister au début de la vaccination de troupeaux bovins, alors que plusieurs centaines d'éleveurs et d'agriculteurs sont mobilisés depuis vendredi contre la stratégie sanitaire du gouvernement face à la dermatose nodulaire contagieuse visant à abattre toutes les bêtes des foyers affectés. Des blocages sont toujours en cours, notamment sur l'A64 à l'est de Bayonne ou encore à Carbonne en Haute-Garonne. Il y a tout juste un an, Chido dévastait Mayotte. Ce cyclone le plus violent depuis un siècle faisait au moins 40 morts et 41 disparus d'après le bilan officiel. Mais Chido a aussi engendré d'immenses dégâts sur l'habitat formel ou informel, plongeant des milliers de familles dans la précarité. Lola Fourmi est retournée sur place et le constat est amer. Pour la population, la reconstruction se fait encore attendre. Reportage.
Des toits bâchés, des épaves dans le lagon, un an après le cyclone, les dégâts sont encore visibles. À Chiconi, Sidi, lui, a vu sa baie vitrée et son toit souffler. Il en a eu pour 3500 euros de travaux, mais aucune compensation, puisqu'il n'était pas assuré.
J'ai pu réparer, mais comme presque tout le monde, on vit dans des problématiques donc, financières, parce que on vit à crédit, donc il faut travailler plus pour pouvoir remettre à zéro donc le compte.
Sinina Ali est directrice adjointe du CAUE de Mayotte, le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement. Et elle confirme la reconstruction n'a pas vraiment commencé. En cause, la crise politique qui a décalé le vote du budget.
On vit toujours Chido, même un an après. On attendait des solutions dans la loi de refondation. Et après les solutions, on attend du coup l'argent. Tout ça, c'est pas encore arrivé.
Côté agriculture, après une destruction de près de 90% des récoltes, la reprise est compliquée. L'association Emsada Halima est intervenue sur plus de 400 exploitations en détresse. Mais Mehmadi Youssouf, l'un des coordinateurs, dénonce une crise vite oubliée.
C'est dommage qu'on ait passé sous les cartons parce qu'il y a toujours l'état d'urgence au niveau du territoire. Si aujourd'hui on ne prend pas la problématique agricole pour pouvoir produire plus et nourrir ne serait-ce que la population qui est au niveau local, bah, ça sera problématique pour les années futures.
Les agriculteurs sinistrés alertent aussi sur un manque d'aide financière. Les pertes sont estimées à 300 millions d'euros, mais pour l'heure, seuls 15 millions ont été débloqués par l'État.
Le reportage de Lola Fourmi à Mayotte, où la ministre des Outre-mer, Naïma Moutchou, a entamé hier soir une visite pour venir constater tout ce qui a été fait et tout ce qu'il reste à faire. Et bonjour Dominique Tessier.
Bonjour, bonjour aux auditeurs de France Culture.
Vous êtes architecte et directeur du Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement de Mayotte. Alors justement, qu'est-ce qui a été fait et concrètement reconstruit depuis un an ?
Alors d'abord, vous savez, une catastrophe, on ne peut pas parler de normalité des délais. C'est exceptionnel et on peut dire que, même si on peut s'en désoler, que le temps qui se déroule ici est assez similaire au temps qui s'est déroulé pour redémarrer les travaux de reconstruction après le passage du cyclone Irma aux Antilles. Alors ici, il y a eu, je crois, deux grands sentiments qui ont partagé tous les acteurs locaux. C'est un, celui d'une attente, une attente vis-à-vis des pouvoirs, des autorités, du gouvernement, etc. Et qui est un temps long, un temps législatif. Il y a eu deux lois. Il y a la mise en place d'un établissement public. Le directeur est arrivé au mois de septembre. Il n'est pas encore vraiment opérationnel, quoique, en fait, ce n'est pas un établissement vraiment nouveau, c'est une augmentation des compétences d'un établissement qui existait déjà et qui a poursuivi son activité. Donc, on peut dire que dans les choses qui ont avancé, il y a eu quand même l'urgence à mettre hors d'eau les écoles pour que les enfants puissent retourner à l'école. Et bien évidemment, tout n'est pas reconstruit. Il n'y a pas le même nombre de classes qu'il n'y en avait avant le cyclone, d'une part, et d'autre part, il y avait déjà beaucoup de manques. On n'avait pas de l'eau tous les jours, les écoles sont partagées en ce qu'on appelle la rotation avec des enfants le matin, des enfants l'après-midi. Ils ont 3 heures de cours par jour. C'est assez limité. Voilà, l'électricité a été rétablie, mais elle est rétablie avec des câbles aériens, c'est-à-dire qu'au prochain cyclone, on aura les mêmes conséquences.
Alors la ministre Naïma Moutchou...
Et l'autre versant, je termine ce que je voulais vous dire, oui. L'autre versant, c'est un foisonnement d'actions, parce que il y a beaucoup d'associations à Mayotte, il y a des gens qui se sont démenés pour venir en aide aux plus démunis, pour par exemple le CAUE que je dirige est venu en aide à 280 familles pendant la durée de l'année, et ça avec les subventions qui nous ont été versées par la Fondation de France. Vous savez, la Fondation de France a réuni à peu près 44 millions d'euros d'aide pour Mayotte et elle en a dépensé à peu près la moitié au cours de l'année 2025.
Mais néanmoins, la ministre Naïma Moutchou reconnaît des points de blocage sur certains chantiers. Mais de quoi parle-t-elle ? Quels sont ces points de blocage finalement ?
Écoutez, je ne les connais pas dans le détail, mais il y a d'abord, on peut dire, deux catégories de chantiers. Il y a les chantiers de reconstruction des bâtiments publics. Donc, les écoles ont été prioritaires. Les autres bâtiments publics, pour l'instant, je ne vois pas qu'ils aient été commencés. Et après, il y a tout le chantier de reconstruction de l'habitat. Pour l'habitat, il n'y a pas de programme. La seule chose qui est proposée au gouvernement, c'est un prêt à 0%. Mais pour les familles qui ont l'habitude soit de faire des tontines et qui tous ont été sinistrés et d'autre part qui sont souvent endettés avec des prêts à la consommation qui sont élevés et qu'ils ont contractés pour faire leurs travaux et qui doivent rembourser certains jusqu'à l'âge de la retraite, le prêt à 0% n'est pas une solution. Ce qu'on peut s'étonner, c'est que il y avait quand même des outils réglementaires qui auraient pu être mis en place, comme ce qu'on appelle le PIG, Programme d'intérêt général, qui est adéquat en cas de catastrophe, et que cela n'a pas été fait. On en entend toujours parler, mais ça, pour l'instant, ça n'existe pas.
Merci beaucoup pour votre éclairage, Dominique Tessier. Je rappelle que vous êtes architecte et directeur du Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement de Mayotte. Et merci également à Louise Guérin pour la préparation de cet entretien. Un mot de météo cet après-midi avec un temps gris qui persiste au nord du pays. Les éclaircies parviendront en revanche à percer dans le sud et sur les reliefs de l'est. Enfin, le soleil s'impose plus franchement sur la Provence. Les températures affichent 5 à 9 degrés sur un large quart nord-est. Elles atteignent 8 à 16 degrés ailleurs. C'est la fin de ce journal, préparé avec Nina Malré, Dalia à la technique.